France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudali. Avec, mais non, c'est pas toi d'abord, avec Mélodie Fontaine, avec bonjour. Camille Lavabre, bonjour Bruno Pecky, Oldelaf, Tanguy Passureau, Daniel Morin,
bonjour Bruno,
et nos invités Marion Barbeau et Pierre Boulet.
France Inter, bande originale, Leïla Kadour et Magui.
T'en as pas l'air, on n'a plus l'habitude d'avoir des stagiaires aussi âgés. Bienvenue Marion, bienvenue Pierre, merci de revenir dans cette bande originale. Comment allez-vous, Marion?
Très bien,
ça
merci.
Va. La dernière fois, c'était pour le capiche, c'est ça, si j'ai bonne mémoire.
Non, c'était pour non. Drone.
Le drone.
Ah oui, le drone, c'est suivi. Vrai, c'est vrai. Et Yann Gozlan, nous, on l'a reçu pour Dalloway, qui est justement un film aussi d'anticipation. Et on le retrouve, Pierre Ninet, à vos côtés. C'est un copain de toujours, c'est le troisième film que vous commettez ensemble.
Ouais, on a grandi ensemble, en tout cas, j'ai l'impression. Ah, on a maturé ensemble dans ce monde du cinéma, donc on est toujours très heureux de se retrouver.
Complice pour raconter ce qui est un peu votre François Pignon, c'est-à-dire Mathieu Vasseur. C'est-à-dire, vous créez un personnage comme ça. Enfin, c'est le même nom, même si c'est pas le même être humain, comme un clin d'œil. On va en parler évidemment jusqu'à midi et demi. C'est l'histoire de Gourou, ce coach mental, physique, pour la vie, pour l'amour, pour la mort. On verra bien ce qui se passe. Justement, avez-vous déjà fait appel à un coach? Et si ou non, à qui feriez-vous appel? Camille Lavabre.
Bruno Pecky et moi avons le même coach sportif.
Mais non, mais ça se voit tellement.
Depuis aujourd'hui. Hein,
c'est vrai?
Juste avant, ouais, je te jure. Ouais.
Ok, d'accord.
Ouais. Aurélien, il est super. Voilà.
Il est vraiment génial. Ouais.
Très bien. À distance ou
Non, physique.
Non, parce qu'il y en a qui font maintenant avec des
ah ouais,
FaceTime.
Non.
D'accord.
Non,
ok, physique. Coach physique. Mélodie, si tu avais un coach, tu le prends.
Moi, mon prod, c'est un peu mon coach. Tu sais, c'est celui que t'appelles et tu fais ça pas. Je vais pas y
non,
arriver.
Non, ça c'est un psy. Ça s'appelle un psy.
Non. C'est mon prod, c'est où il fait mais si, vas-y, allez, t'inquiète, okay. Tu vas y arriver.
Il parle comme ça te rassure.
Ouais, un peu.
Prends du pinard. Leïla.
Coach sportif, ouais, Bénédicte et Céline. Ouais.
Ah, elles se mettent à deux.
Ouais.
Wow.
C'est au moins,
tu résistes.
Non, il y en a une qui est haltérophile et l'autre qui est une spécialiste des pilates.
Ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc tout ouais. Ça, c'est ouais. Que physique à part mental pour toi.
Moi, j'ai rien de physique.
Hold 2.
Moi, j'avais un coach physique qui m'a donné sa démission. Voilà, il m'avait torsionné.
Et tu veux toujours pas prendre un prof de musique, t'es sûr. Hein, tu
oh là là, mais je connais ça.
Oh, ça va.
Oh le vilain.
Faute. Est-ce que tu as un coach ou est-ce que tu aimerais avoir un coach?
Ni mental, ni physique. Je suis un guerrier, moi, je fais tout seul, Nagui.
Non mais
je plaisante. Non.
Idéalement, si tu avais un coach, tu devrais.
Ah non, mais vraiment, ça me tente
rien.
Pas du tout
okay,
avoir à dialoguer avec quelqu'un. Moi, ça me gonfle. Donc, je me motive tout seul en réalité.
Ok, Daniel Morin.
Oui, j'en ai eu un, ouais. Ouais.
Physique aussi ou mental?
Non, pas physique, il avait lâché l'affaire. Mais, mais mental, non, vraiment.
C'est vrai?
Ouais, j'en ai eu un pendant 6 mois.
Et alors, quelle est la nuance entre psy et coach mental?
Il n'a pas de diplôme.
C'est le sujet du film.
C'est le sujet du film. Il est très intéressant, néanmoins.
Ouais. Alors moi, j'ai pris aussi un coach, il y a longtemps, hein, donc arrêtez les vannes tout de suite. Coach physique, mais juste pour apprendre les 2-3 trucs, comment faire les bons gestes sans s'abîmer.
Ah oui.
Genre la planche,
t'as pas envoyé
les pompes, les abdos, les... Salopard.
Il faut renouveler ça régulièrement.
Et je le salue. Bah non, parce qu'en même temps, j'ai gardé les mêmes exercices pour la vie.
Changer un peu.
Bah écoute, je sais bien. Marion, avez-vous eu un coach?
Ouais.
Et physique ou mental?
Pour la danse.
Donc
pour me préparer.
Ou c'était mental? Parce que je ne me rends pas compte de l'abnégation qu'il faut dans le milieu de la danse s'il faut un coach mental.
Ah ouais, carrément. Bah après, c'est vraiment des discussions sur comment se préparer au mieux pour la scène. Mais donc c'est et physique et mental, carrément.
Pierre?
Moi, j'ai eu pas mal de coachs pour des films, pour préparer des films. Donc, je pense à quand j'ai appris à faire du violon, quand j'ai appris à dessiner pour Yves Saint-Laurent, j'avais des gens, voilà. Mais je trouve que le terme coach est presque devenu un peu galvaudé quand on dit coach pour un prof, en fait, maintenant, ou quelqu'un juste qui a une connaissance, qui va te la passer. C'est pas nécessairement du coaching. Je sais pas si maintenant le mot est devenu un peu cool, donc on a tous envie de se dire j'ai un coach et tout. C'est ça dont on voulait parler aussi dans le film. Mais ça a jamais eu quelqu'un où j'ai l'impression que ça prenait une place un peu trop grande. Et c'est vrai que moi, naturellement, de par mon éducation et tout, je me suis plutôt tourné vers de la thérapie, des psys pour ce qui est mental, quoi.
Ah oui, carrément.
Oui, d'accord. Bah oui.
Ok, donc avec le côté diplômé, rassurant, parce que je crois que psychiatre, psychologue, il faut tout dans les trois noms, parce qu'on dit psy comme terme générique.
Et psychopathe.
Je crois qu'ils ont tous des diplômes, sauf les psychopathes comme toi. Mais je crois qu'ils ont tous des diplômes. C'est le sujet justement dans le film dont nous allons parler. Gourou. Alors là, le message est clair. C'est-à-dire quand on dépasse certaines lignes ou certaines limites, lorsqu'il est totalement entraîné, porté par les foules, galvanisé, ce qui fait flipper dans le film, encore plus flipper, c'est que dès le début du film, les phrases qui sont dites pour le coaching, on se dit ouais.
C'est pas mal. Ouais.
On est d'accord.
C'est bien.
C'est ça le problème.
Bien au départ.
Tu es ce que tu veux. Le monde est à toi. Fais ton monde. Te laisse pas embarquer.
Si, le monde est à toi, déjà, ça commençait à être louche. Mais bon,
en tout cas, tu fais partie. Je sais pas si c'est la phrase exacte. C'est pas le monde est à toi, non.
Le monde est votre monde. Vous pouvez lui donner les couleurs que vous voulez. C'est vous qui décidez des couleurs que vous voyez.
Même quand il le redit, là, ça fait peur. Ça commence déjà à me faire peur.
Je commence à trembler déjà. Le monde est à toi, c'est dans Scarface.
Mais en l'occurrence, devient ce. Si, il y a une phrase qui était toujours dite à la fin des émissions de télé-réalité dans le Loft et compagnie, c'est « reste toi-même ».
Ouais. Cette phrase, elle me rend fou, par exemple. Hein, voilà. C'est une des phrases qui m'a, entre autres, poussé à aller vers cette idée-là et de la proposer à Yann Gozan. C'était que je voyais effectivement se multiplier sur les réseaux sociaux. On l'a tous vu sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Des coachs qui donc te conseillent un peu dans toutes les matières. Et il y a ces fameuses phrases, sors de ta zone de confort, reste toi-même. Mais reste toi-même, tu le dis à un sociopathe, c'est le pire conseil que tu puisses lui donner. C'est vraiment contextuel, il y a un gros problème.
Deviens la meilleure version de toi-même. J'ai envie de mourir tout de suite.
C'est devenu. Et puis c'est très générique, c'est comme s'il voulait attraper un maximum de gens. Donc c'est devenu un peu un horoscope géant, le truc.
Mais c'est le piège du film. C'est-à-dire que les premières phrases dans le film, on finit par adhérer, à se dire bah ouais, c'est cool, on est d'accord avec ce qu'il dit, on devient adepte, entre guillemets, je sais pas, ou client, en tout cas de ce genre, de ce genre de phrases. Ouais, après, on découvre tout ce qui se passe derrière et la manière dont il est avec oreillette, avec peut-être la manipulation ou pas, on va le savoir par sa douce et tendre que vous interprétez, Marion, parce qu'on dirait qu'elle est un peu sa productrice, elle parle à son oreillette et en même temps elle est peut-être sous l'emprise, elle aussi, au sein du couple, qu'elle va être la limite entre le professionnel et le perso.
Pas trop en dire.
On va l'évoquer. Non, il y a des limites. Allez voir Gourou, ça sort mercredi, on en parle jusqu'à 12h30. D'abord, voici Hold de Love, fan de Marion Barbeau et de Pierre Niney.
Je suis fan de Pierre Niney et j'assume, je veux pas entendre nanani nanana Niney. Un des dessinateurs les plus forts de sa génération. Faut voir les dessins animés des films d'animation. Je suis fan de Marion Barbeau. Pas de nanani nanana ni Barbeau, mais là ça marche pas. J'ai l'impression que la danse a pas mal d'importance pour vous. Du coup, je voulais votre avis sur Danse avec les loups. Et vous êtes là pour Gourou, un film sur les coachs. Parfait pour France Inter, c'est une radio de coach. Bravo, vous jouez trop bien et puis le film est fou. César est dans la Porsche car c'est du grand. Ouais, je suis fan de cette histoire vraiment géniale qui pose de vraies questions sur la santé mentale. Il faut souvent de l'aide pour guérir ses blessures. Mais n'oublie pas que l'empire du coach est obscur. Obscur, le coach est noir, noir comme le plateau où flotte l'étendard de ce mytho. Sois sûr que dans ses yeux la vérité est masquée. Viens, bascule, envoie des billets. Obscur, dark, passeur, fais croire que nos idéaux se monnaient en dollars. Marion Barbeau assuré dans ses yeux la vérité. Viens, recule, car ce coach est obscur. Obscur, la mouche du coach est noire, noire comme le cerveau naissent les blabla, les pipeaux. Sois sûr que dans son jeu la vérité est truquée. Il se prend pour Nagui ou quoi avec tous ses billets. Obscur, dark, passeur, fait croire que nos idéaux se monnaient en dollars. Marion Barbeau dans des eaux sombres et troublées. Deviens toi-même, ce coach est obscur. Oh, on est tous fans de Coach Matt, même Etchebest trépigne. Il faudrait pour la télé faire Coach Matt en cuisine. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Coach Mac
avec toutes nos excuses, évidemment.
Ah là là là, bien sûr. Hold de Love qui sera demain soir à Sainte-Savine, c'est vers 3 et le 1er avril à Paris, aux Folies Bergères.
On c'est pas si on est dans un suspense ou dans une secte, c'est tout le problème d'ailleurs, et toute la tension du film de Yann Gozlan avec ce titre Gourou.
C'est une musique de manipulation, ça.
Non. Ou de concentration.
Ou de spa, ouais. C'est ça.
Ouais, ouais. Ah, de spa énervé quand même.
C'est berlinois, c'est berlinois.
Après, il y a une ambiance plus spectaculaire. Presque limite Ligue des Champions, quand il rentre sur le terrain, c'est un joueur de foot qui est qui vient de marquer un but.
Non, c'est le top 14, pardon.
Bah ça, c'était ça dépend des écoles, mais ça, c'était la musique de Jordan au Chicago Bulls. Quand il rentrait sur le terrain, il y avait tout le temps ça.
Ouais,
années 80, 90, ouais, bien sûr.
Ça donne envie de pleurer.
Mais c'est vrai, moi, je vois Jordan. Moi, je vois Jordan quand je suis dans ma chambre d'adolescent. Je vois les meilleures actions de Jordan. Et en fait, il y a un truc tellement cathartique, et évidemment c'est ça que Coach Matt essaie d'aller chercher avec cette musique sur ses séminaristes.
Et le top musique.
En même temps, Michael, c'est le dieu, donc c'est forcément.
Ouais. Tu vas te calmer. Oui.
Pardon. Oui.
Et le top
musique.
Mais
oui, vous jouez au basket aussi.
Oui.
Mais voilà.
Et le top musique, c'est vous qui le donnez, Marion. Vous êtes celle qui est en régie, à son oreillette, et qui lui permet de pouvoir s'adresser à ses adeptes. C'est le terme que je dois employer ou pas? Comment s'appelle les, comment vous appelez adeptes, les clients de...
Bah, en fait, soit client, soit patient, mais plutôt, du coup, pas patient parce qu'il a pas de diplôme, pas de formation.
Au générique, voilà. Vous avez mis adepte. C'est pour ça que je pense.
Adepte, je pense que c'est la bonne mesure du truc.
Okay. Donc, c'est vous qui donnez le top. C'est vous qui dites, tu vas, comme une bataille navale, tu vas en I-14, comme des cibles qui sont données, tu vas en B-12 pour choper telle ou telle personne et
il comme un show télé quoi, on
exactement.
Sait qui est assis où.
Il s'appelle ou elle s'appelle comme ça, il a eu un problème perso, c'est-à-dire que la personne est le centre du monde d'un coup parce que le gourou en question sait tout de lui ou d'elle.
Ouais. Bah, de toute façon, ce couple...
Donc c'est vous qui le manipulez.
Ah non, mais je pense que ce couple, c'est un couple de façade et puis c'est une équipe avant tout. Même si elle n'est pas seule à s'occuper de cette grande entreprise,
il y a toute une boîte de prod.
Il y a toute
en fait.
Une boîte de prod, ouais, avec d'autres personnages, mais oui, c'est avant tout un couple qui est là pour le travail, quoi. C'est surtout on sait pas trop ce qui se passe dans l'intimité.
En tout cas, on se rend compte que le travail en question, ce sont des prélèvements automatiques, ce sont des gens qui payent. À un moment donné, la phrase est dite d'ailleurs qui s'endettent pour pouvoir assister à ces séminaires, à ce coaching. D'aller dans la vie des uns et des autres, de parler de leur intimité et de se laisser porter par la foule. Et quand je dis se laisser porter, c'est l'une des images aussi frappantes de Julien, le premier, je crois, qui se fait porter comme une rockstar ou comme ou comme un dieu, à bout de bras comme ça par la foule, parce qu'il va se lâcher, se révéler et penser lui passer de l'autre côté de la bande, devenir intrusif presque dans la vie du coach.
Ah oui, ça va évidemment déborder. On va voir tout ce qui peut se passer mal dans ces relations où un coach fait des promesses à des gens qui souvent viennent dans ces séminaires parce que ils vont pas bien, parce qu'ils ont déjà une faiblesse, une fragilité.
C'est Anthony Bajon
Anthony Bajon
qui joue
qui est génial dans le film, vraiment super.
Ils sont tous super.
Ouais, mais je souligne Anthony.
Mais je suis d'accord. Anthony, il livre une prestation exceptionnelle, justement parce que c'est ce garçon avec une fêlure, un passé, un trauma qui vient se livrer à Coach Matt, et il est effectivement dès la première scène porté par la foule avec cette musique de Michael Jordan derrière, et on se pose la question de se dire. Ça lui a fait du bien, vraiment, parce que quand même, il a l'air d'être mieux, il sourit, il rit, ils ont vécu un moment très fort ensemble. Et en même temps, sous la pression de 400 personnes, c'est un moment ce que dit le personnage de Marion, est-ce que les choix et les décisions sont bien raisonnables et raisonnées?
C'est ce qui arrive surtout avec l'autre, avec Daniel, qui est
aussi,
un de vos camarades de la Comédie Française, c'est ça?
On est tous les deux anciens de la Comédie Française, mais oui, il y a une scène où il joue un chauffagiste est venu
Daniel, séminaire. Et Daniel est joué par...
Eh ben c'est joué par Jérôme Pouli, du coup, ancien Comédie Française.
Ancien de la Comédie Française.
Léonie Simaga aussi, ancienne de la Comédie Française.
Et Christophe Montenez, qui joue mon frère, qui est actuel de la Comédie Française. Je suis pas allé chercher très loin. Avec Yann, on s'est dit, on va faire des
essais,
on va faire des très bons acteurs.
Et Christophe Montenez, qui excelle en ce moment dans Hamlet d'Ivo Van Hoff. Je suis allé le voir vendredi soir, il est exceptionnel.
C'est vrai, il rêve de jouer Hamlet.
Je rêve autant de le jouer que de voir Christophe, parce que je suis tellement fan de Christophe Montenez que
avec Guillaume Gallienne.
En tout cas, ils ont beaucoup de temps libre à la Comédie Comédie Française.
Je suis super. Super.
À ce casting, donc, Marion Barbeau, vous jouez la compagne qui, ou celle qui est peut-être la première sous l'emprise de ce pervers narcissique, parce qu'il y a un moment où on se pose vraiment la question de la manipulation. Je parle du personnage, Pierre.
Oui, mais c'est mes initiales aussi, PN, on m'a fait remarquer ça, on m'a dit c'est vraiment inscrit dans ton truc. J'étais ah ouais, calmez-vous. Attendez. Mais je sais pas si c'est un pervers narcissique. En tout cas, ce qui est important au début.
Bah pardon, il manipule l'amour.
C'est un prédateur.
Non, mais il y croit autant qu'il fait.
Au début, il y croit à fond, à fond. Et c'était super important pour nous. Et d'ailleurs, il croit à son couple. Il croit. Moi, je pense qu'il est vraiment amoureux du personnage que joue Marion, d'Adèle. Il le dit à son frère. Il dit, mais où est le mal, en fait? J'essaie de faire du bien à des gens dans un monde qui va très mal. Et où est le problème? Et pareil, quand il parle des gens endettés, il dit, oui, il y a des gens qui s'endettent pour venir dans la salle. Et moi, vous voulez que je les lâche? Vous voulez pas que je les bouscule un peu pour réaliser enfin leur rêve? L'argument, il est presque recevable. Il est presque bon. C'est ça qui nous intéressait.
Sauf que c'est lui qui va pas bien, quoi, en fait.
En fait, possiblement.
Oui. Voilà, on va aller creuser. Parce que là, vous faites très peur, quand même, Pierre.
Non, surtout, il a monté un business. Ce business est en danger parce qu'il. Donc, le déclic, finalement, de toute l'intrigue du film, c'est une sénatrice et c'est un projet de loi pour qu'il y ait un diplôme comme celui des psychanalystes, des psychiatres.
Exactement, c'est-à-dire qu'il soit reconnu, officiel.
Voilà, qu'il y ait des études qui soient faites. Et c'est là où le parallèle entre vie privée et vie professionnelle commence à être intéressant, puisque finalement, la compète entre ceux qui ont le diplôme et ceux qui ne l'ont pas pour être coach va être le sujet de la bataille de Mathieu Vasseur. Et son frère, lui, est diplômé. Et son frère, lui, est installé et reconnu aussi. Et il le traite un peu avec mépris, avec... Je ne sais pas s'il dit la phrase « t'as même pas le bac », mais en tout cas, on le comprend, qu'il y a une distance sociale entre les deux. Et puis surtout, la phrase qui est dite, j'avais notée, mais je vais la retrouver, quand il le compare à Dieu, ou à Jésus, il dit « je ne me prends pas encore pour Jésus, mais j'aime bien l'image ». On fait le même métier, lui aussi, et lui et moi. Ouais. C'est fou.
Ouais, c'est fou. C'est une scène qu'on a beaucoup aimé faire, une scène de déjeuner très tendue justement, avec le personnage de Marion Barbeau et la femme de mon frère. Et on sent qu'il y a effectivement un truc très malsain entre les deux frères, de l'ordre de la compétition, de la
tension. Frère qui était caché au sein du couple avant, hein. Vous dites, il y a comme un fantôme. Je vais enfin le voir, celui-là.
Ouais. On comprend pourquoi. Ouais.
Bah oui, en fait, je pense que son frère est ingénieur. Et nous, on s'est raconté avec Yann Gozlan qu'effectivement, coach Matt se sent comme le vilain petit canard de la famille. Il a pas fait d'études. Les parents sont sans doute diplômés. Ils leur ont sans doute demandé de faire des études. Et le frère est ingénieur. Et les deux sont complexés l'un par l'autre parce qu'il y en a un, c'est quand même un peu une rock star dans ce qu'il fait.
Et donc une réussite financière et pécuniaire.
Il bling bling un peu en lui montrant sa belle maison au bord de la Seine avec un bateau. Voilà, et on sent que ça fait grincer quand même un peu les dents du frère. Il y a des scènes que j'aime beaucoup et Christophe justement Montenez arrive à jouer ça de manière hyper fine, je trouve, et ça va monter assez fort entre les deux, et c'est aussi un gros antagoniste pour coach Matt, ce frère qui veut quoi, séduire, convaincre, tuer, on sait pas quoi.
Et donc il y a cette tension qui va monter, ça devient un véritable film de suspense, un véritable thriller. C'est à quel point et quelles sont les limites qui devront être franchies pour pouvoir s'en sortir. Les réseaux sociaux sont très présents également, la manière dont le couple même s'affiche, fait des selfies avec beaucoup d'autodérision en disant ah, les ringards qui s'affichent comme ça dans leur vie, ils sont pas, puis elle est trop bien pour lui, il est trop bien pour elle, donc on dit ok, ils sont dans la vanne, ils sont très distants et très conscients de la manière dont ils se servent des réseaux sociaux, sauf que la courbe de nombre de vues sur les différents réseaux devient intéressante quand on fait des vidéos. Il tient à sa popularité, dès qu'elle est égratignée, là il peut péter un câble, mais vraiment dans tous les sens du terme. Et il peut devenir dangereux.
Oui. Bah, dès qu'on va s'en prendre à la fois à son business, mais aussi de manière un peu moins cynique, à ce qu'il aime, à ce qu'il passionne, au fait de monter sur scène, comme il le dit un moment dans une scène que j'aime beaucoup, justement, après cette scène où il convainc un chauffagiste de faire un truc assez irréversible sur sa vie devant 400 personnes en délire. C'est une scène que j'aimais beaucoup, et ensuite ses équipes lui reprochent.
C'est là où il y a la rupture déjà avec vous, Marion.
Ça va se dégrader entre eux, ouais.
Quand il sort, vous dites, mais qu'est-ce que t'as fait? On va pas spoiler en disant qu'est-ce qu'il lui a fait faire, mais il lui a fait faire quelque chose, en disant, en fait, je l'ai libéré, je lui ai fait du bien, et personne au sein de la prod, j'ai envie de dire, cautionne.
Bah oui, parce
vous
que
la première.
Bah parce que c'est plus rien n'est contrôlé, plus rien n'est maîtrisé. C'est pas ce qu'on avait prévu. On a un plan, on prévoit des choses Et là, il est en roue libre. Donc...
Vous devenez un tout petit peu notre repère en tant que spectateur est... dans le film. C'est-à-dire qu'on est totalement avec vous en disant elle doit souffrir, elle est plus ou moins manipulée, plus ou moins victime.
Mais c'est là qu'on voit qu'elle n'est pas sous emprise totalement.
Ouais, elle garde la tête froide. Il n'y a que la scène dans le taxi ou dans la voiture où elle se fait, entre guillemets, avoir quand il fait semblant de parler à son frère au téléphone. Ça, c'est super fort ce moment-là parce que c'est rempli de non-dits. Tout est dans la gêne, dans le regard, dans l'abandon aussi.
Ouais.
Et c'est l'un des moments où le film bascule.
Ouais. Bah, ce personnage, c'est vraiment les yeux du spectateur. C'est vraiment la première témoin. Mais je pense qu'au début, effectivement, c'est un couple qui s'aime. Elle a été aussi, je pense, séduite par son humanisme, on pourrait dire.
Son charisme, il est
son charisme, ça, ouais. C'est sûr, ouais. Ouais. Elle est vraiment par l'idée d'aider les gens, quoi. Mm. Et je pense qu'elle a envie de s'accrocher à ça. C'est toujours dur de quitter quelqu'un et d'avoir une autre vision de lui, quoi.
Ouais, de se rendre compte qu'en fait...
C'est pas celui...
Et là, on vous parle, on vous raconte que ce qui se passe dans la première demi-heure, parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements dans le film, à ne pas dévoiler parce que c'est un véritable suspense, un véritable thriller, avec des limites qui vont être franchies jusqu'où. C'est intéressant de le voir, d'autant plus intéressant que les coachs sont peut-être à la mode, mais les populistes aussi. On ne peut pas voir le film sans penser à Trump, sans penser à Elon Musk, sans penser à ces gens qui d'un coup deviennent hystériques en entendant une foule faire... Et là, ils se disent, ok, je tiens le bon bout. C'est Elon Musk n'aurait peut-être jamais fait le salut nazi s'il n'y avait pas eu une foule comme ça qui l'haranguait et qui se mettait à hurler au moindre mot qu'il prononçait.
C'est vraiment, moi, ce qui me passionne dans le film, et c'était ma première intention quand je suis allé voir Yann et que j'ai eu cette idée-là, c'était de traiter à quel point les orateurs peuvent rentrer dans la tête des gens, à quel point avec les mots, en fait, depuis la nuit des temps, on arrive à retourner des gens, à les manipuler, parfois aussi à leur faire du bien, à les élever, les inspirer, parce qu'on a besoin de modèles, on a besoin d'admirer. Mais entre l'admiration et l'adulation, il y a un gouffre énorme.
Et la manipulation ?
Bien sûr, la manipulation, mais en fait, finalement, dans le cinéma, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de figures d'orateurs que ça, en fait. En regardant, je me suis dit, mais ce personnage m'intéresse parce qu'il électrise les foules, il les met en transe, et voilà. Mais aussi, le monde du coaching et du développement personnel est jamais arrivé au cinéma pour le moment. On a eu Tom Cruise dans Magnolia, ouais, évidemment, avec une ou deux scènes mythiques, mais il jouait un coach en séduction, et c'était quelques scènes du film de Paul Thomas Anderson, Magnolia. Mais sinon, alors que l'art oratoire est encore une fois, et depuis dans tous les villages, les conteurs et tout, jusqu'à aujourd'hui, les néo-populistes, les néo-fascistes, et pourtant, il n'y a pas de grand film là-dessus. Donc, on avait envie de visiter ça.
Dans votre comportement, je ne sais pas si c'est des rêves pour vous, mais le loup de Wall Street aussi, ouais, DiCaprio, dans la manière dont il se fait embarquer par sa propre... Ouais. Machine. Que
ouais,
je sais pas
ouais, lui, c'est la doctrine capitaliste, voilà. Évidemment, le personnage de DiCaprio. Mais il y a cette électrisation, effectivement, de ses employés. Et pour revenir sur le néo-fascisme et tout ça, c'est vrai qu'on est à une époque, on est rentré dans une époque où les bonnes histoires et l'émotion et la sidération sont plus fortes et sont en train de supplanter la réalité et les faits dans de nombreux pays et dans de nombreux endroits.
C'est pour ça que je parlais du populisme, parce que dès l'instant où le Sénat dit qu'il faut faire une loi pour régir les propos, la manipulation et autres, évidemment, ce que font tous les néo-fascistes et tous les populistes, en disant « Ah ok, donc on n'a plus la liberté d'expression, on ne peut plus faire comme on veut. »
C'est du communisme.
On est bâillonné. C'est le système qui va s'emparer et qui joue le jeu.
Est-ce qu'on ne distingue pas la liberté d'expression et la liberté, enfin le fait d'insulter et de diffamer, en fait, c'est juste ça.
Déjà.
On est tout ça là-dedans.
Et puis le système, ce mot-là qui est utilisé toujours avec malice dans le film, d'ailleurs, vous parlez du système limbique.
Limbique,
c'est ça, c'est celui du cerveau, des émotions, mais la manière dont il emploie le système, justement, en disant libère-toi du système, d'un coup, évidemment, on ne peut faire que le parallèle avec
les élites,
disent,
les sachants.
Les sachants, les médias qui prônent la vérité et qui nous disent quoi manger, pour qui voter, et ainsi de suite. C'est pas grave, je passerai par d'autres médias, j'ai mes réseaux. Ouais, c'est vraiment ce qui se passe, tristement, et pas qu'en France, mais dans toutes les démocraties, c'est-à-dire qu'à force de dire on est démocrate, bah on laisse la parole à tout et n'importe
quoi. C'est que Matt aussi a un mentor, un Américain, qui lui est le niveau vraiment, vraiment au-dessus, qui est milliardaire et qui lui a des méthodes vraiment très, très, très agressives.
Il veut toucher le ciel, lui.
Qui est le gourou de coach ultime. Matt. Voilà. Ouais, dont on s'est inspiré de plusieurs coachs, mais en partie aussi de Tony Robbins, qui est un énorme coach américain qui, lui, a maintenant est vraiment multimilliardaire, qui fait des salles de 50 000 personnes. Mais non. Les places sont hors de prix.
Il y a des vidéos en ligne, tu verrais, c'est dingue.
Ouais. C'est ouf. C'est Holt McCallany qui joue.
Un enjeu dans le film aussi.
Ce coach américain.
C'est Holt McCallany, exactement. C'est un gros enjeu dans le film et c'est un gros acteur qu'on est allé chercher qui a tourné beaucoup avec Fincher. Donc il a fait Mindhunter sur Netflix.
Cette série géniale. Ouais.
C'était un des deux inspecteurs avec la mâchoire carrée, très imposant. Et Yann voulait vraiment, voilà, un gourou où tout de suite quand il rentre dans la pièce, bah tu t'assois et t'écoutes quoi. Et c'est Holt à ce truc-là.
Ou t'as peur,
possiblement. C'est vraiment l'un ou l'autre. T'as envie qu'il te prenne dans les bras ou t'as peur. Et c'est vraiment ce qu'a Tony Robbins. Et c'est vraiment un business dont on pense qu'il n'est que américain. Et non, en France, nous avons bien des séminaires partout comme ça qui ont lieu.
Et apparemment, Yann Gozlan y est allé aussi. On va en parler jusqu'à midi et demi de ce film Gourou, qui est une réussite, vous l'avez compris, signé Yann Gozlan, porté par Christophe Montenez et nos deux invités, Marion Barbeau et Pierre Ninet, sans oublier Anthony Bajon dans le rôle de Julien. Voici Monsieur Bolido. Bruno Pecky, vous n'auriez pas fait un film sur les gourous comme ça, vous?
Dans cette chronique, tu découvriras les trois erreurs que tu fais qui empêchent ton film d'atteindre son plein potentiel. La sixième va te surprendre. Je m'appelle Bruno Pecky, j'ai 26 ans de carrière derrière moi, 80 chroniques sur Inter, dont 10 figurent dans le top 10 de mes meilleures chroniques. Zéro film à mon actif et zéro échec au box-office. Bref, je suis la personne qu'il te faut pour faire décoller ta carrière.
Yeah.
Alors franchement, Nagui, ce film, je l'aurais pas fait comme ça, for sure. Parce que finalement, un gourou, c'est quoi? Un homme convaincu par son projet qui crie en public en haranguant la foule. La dernière fois qu'on a vu ça en France, le mec est devenu président de la République. D'ailleurs, un autre point commun plus récent, à la fin du film, Mathieu Vasseur est en gueule de bois avec des lunettes de soleil à parler anglais.
C'est vrai.
C'est le résumé du passage à Davos d'Emmanuel Macron. Voilà. Peut-être que votre vraie inspiration pour le rôle, Pierre, c'est pas DiCaprio ou Tom Cruise, c'est Manu. Non, en vrai, vous avez puisé vos inspirations dans le milieu du coaching, vous venez de le dire, avec notamment l'américain Tony Robbins pour le personnage de Peter Conrad. D'ailleurs, j'ai googlé Peter Conrad et figurez-vous que Peter Conrad en France, c'est un chanteur de blues du Val d'Oise. Ah, on l'écoute maintenant.
C'est Old Enough.
Allez hop là, Peter Conrad en séminaire dans tous les EHPAD de France. D'ailleurs, Pierre, vous avez tourné des scènes de séminaire avec le film et vous dites même l'énergie de la salle après 4 jours de tournage avec 400 figurants dans la même pièce sans fenêtre, c'était dingue. Enfin, quand vous dites 400 personnes sans fenêtre, perso, j'imagine pas l'énergie de la salle, mais l'odeur. Après, j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien. Malgré mes 26 ans de carrière, j'ai pas l'habitude des salles de 400 personnes. En revanche, il y en a un qui s'y connaît en séminaire de coaching, c'est Yann Gozlan, le réalisateur. Ouais. Se préparer au tournage, il s'est plongé en immersion dans l'univers du coaching en participant à plusieurs séminaires. Ouais, je le soupçonne d'avoir kiffé ça. Hein. Le mec était un peu perdu dans sa life, il voulait faire 2-3 séminaires à 3000 balles, il s'est dit il faut que je passe ça en note de frais. Bon bah j'en fais un film quoi. C'est tellement pratique quand t'es réel, ça justifie toutes les immersions possibles. D'ailleurs je vous annonce en exclusivité que le prochain film de Yann Gozlan explorera l'univers de la drogue et des escortes. Bon, l'autre gros kiff que vous êtes fait sur le film, c'est le budget, hein, 12,5 millions d'euros. Au début je comprenais pas où était parti l'argent, jusqu'au moment où j'ai vu les scènes à Las Vegas. Ah bah ça se voit, c'est le kiff de deux potes qui pour leur troisième film ensemble se sont dit ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Yann Gozlan a tellement l'habitude de bosser avec vous, Pierre, qu'il fait plus d'efforts en termes d'écriture. Hein. Il reprend le même nom de personnage, Mathieu Vasseur. Bon, vous avez l'air de kiffer ça. Hein. Vous avez même dit que ça crée une sorte de multiverse, le MCU français, hein, le MVU, Mathieu Vasseur Universe. Bah, moi, j'aurais plutôt dit que vous êtes dans l'univers de Martine à la plage. Hein. Bah oui, les derniers films que vous avez fait avec Yann Gozlan, c'est plutôt Mathieu apprend à écrire, Mathieu à l'aéroport, Mathieu chez les mascus. Après, il y a quand même eu un peu de taf, hein, parce que vous dites, Pierre, que vous avez dû vous préparer physiquement en allant à la salle 4-5 fois par semaine, comme le ferait votre personnage Coach Matt. Ouais, moi, je pense surtout que vous aviez que votre partenaire à l'écran serait une danseuse et vous êtes regardé et là, prise de conscience, quoi. Bon, bah, faut que je retourne à la salle. Hein. Oui, parce qu'à la base, on le sait, Marion Barbeau, vous êtes danseuse, vous étiez même au ballet de l'Opéra de Paris pendant plusieurs années. Ma pauvre, quoi. Vous avez quitté un lieu, vous étiez constamment sous pression. Tout ça pour vous retrouver dans un film face à un personnage taré qui vous gueule dessus. Je sais pas si vous avez gagné au change. Hein. Enfin, si, je connais la rémunération des danseurs classiques, vous avez gagné au change. Vous êtes dit, quitte à se faire gueuler dessus, au moins que je puisse m'acheter un appart, quoi. En parlant de mec qui gueule et qui s'y connaît en comportement de gourou, il y a Hanouna dans le film. Ouais, voir Pierre Ninet parler à Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste, franchement j'aurais pas osé le mettre dans mon bingo 2026. D'ailleurs, pas une seule fois vous avez pensé à Nagui, quoi. Je veux dire, dans le film, il y a un animateur télé, c'est pas lui. Un animateur radio, pas lui non plus. En revanche, pour la promo, on est bien content de venir voir le gourou de la vallée du Nil. Hein. Ah si, non si quand même, c'est sympa d'avoir mis des séquences d'une commission d'enquête, comme ça Nagui a pu se préparer pour son audition.
C'est vrai.
Bref, désolé Pierre et Marion, finalement je vous ai même pas donné les trois erreurs qui empêchent un film d'atteindre son plein potentiel. Mais pour les connaître, rien de plus facile, abonnez-vous à ma formation, c'est seulement 3000 euros, 30% de réduction pour les 500 premiers, avec le code promo FAUCHEUR.
Mais FAUCHEUR! Merci Monsieur Pecky.
Monsieur Pecky qui sera au point virgule demain.
Alors détrompe-toi, et je pense que même Pierre Niney ou Yann Gosland ne le savent pas, mais N'oubliez pas les paroles est présent dans le film.
C'est vrai?
Ouais. Vous saviez Pierre ou pas?
Absolument pas. Qu'est-ce que c'est ça?
Toi, tu le sais, Marion?
Ah, ça, ouais.
Il y a une scène à la télé.
Non, pas du tout, pas du tout. Au moment où Déborah Graal, qui joue
la journaliste
de complément d'enquête, infiltre, la personne qui est juste à côté assise, qui est figurante, est une des grandes maestros de N'oubliez pas les paroles. Je vous jure, qui fait actrice, qui a fait des castings, qui est passée.
Ah, on s'est vraiment fait infiltrer, alors. Mais on sait pas.
Elle m'a rien dit sur les coulisses du tournage, en tout cas. Ouais, c'est Héloïse, et je l'embrasse. Au passage. Et puis clin d'œil aussi à Déborah Graal, petite fille de Philippe Noiret, et qui joue cette journaliste qui essaye de s'infiltrer, mais qui se fait démasquer.
Ils vont commencer à être un peu submergés un moment attaqués de tous les côtés, c'est ce que dit.
Par des demandes d'interview et des journalistes,
tout à fait. Bah, en fait, ils attirent l'attention parce que d'un coup, il est convoqué effectivement à cette commission d'enquête par une sénatrice. Voilà. Et cette scène est vraiment palpitante justement sur ce qu'elle lui reproche. Elle lui dit, est-ce que vous pensez que sans diplôme, sans formation, on peut accompagner des gens qui vont très mal? Est-ce que vous
Surtout
pensez
qu'il ne voit, qu'un... voit pas venir. Il croit que justement, ça va être génial de se présenter et...
Oui, et il est persuadé, lui qui n'a pas de diplôme ni rien, quand on lui dit venez dans les ors du Sénat, vous allez être reçu pour nous parler en tant que spécialiste.
Il y va en winner.
Et lui, il se dit plutôt c'est bien qu'il y ait des lois, il faut qu'on encadre un peu notre profession. Encore une fois, c'est pas manichéen, c'est pas un mec qui se dit mais non, il faut arrêter et tout. Non, lui, il se dit moi je suis plutôt du côté des good guys, personne ne s'est jamais plaint de moi, je fais des bonnes formations, je donne des bons outils aux gens, je veux leur bien. Ouais. Donc il se dit. Ah, la fierté, quoi. Je suis convoqué par l'État alors que j'ai pas le bac.
Il veut même que son frère soit là, en fait.
Et du coup, il invite son frère. Erreur tragique.
On parle
d'abus. On va répondre aux commissions d'enquête.
On parle d'abus de faiblesse, au contraire. On parle d'abus de faiblesse, on parle de positivité toxique, beaucoup aussi, de dérive sectaire, en opposition à la science. Et puis, il y a une vanne. Est-ce qu'elle était destiné à France Inter ou pas, lorsque vous parlez des sachants des rois de matinale parisienne. N'empêche que Nicolas Demand est présent aussi dans le film.
Ah bah c'est le personnage qui dit ça quand il commence à se sentir menacé. Donc lui, il commence à se mettre, effectivement, vous parliez tout à l'heure de Trump, effectivement, c'est un peu les auto-entrepreneurs, pour faire très grand trait, les auto-entrepreneurs, les start-upers, les gens qui veulent faire versus un peu l'État, quoi, la machine d'État. Donc forcément, il commence à dire les sachants, les rois des matinales parisiennes, et il commence à être un petit peu plus agressif envers ceux qui sont pointés du doigt souvent par ces néo-fascistes et néo-populistes.
Comment travailler les personnages, cette fois-ci, avec les accessoires, on parlait de la préparation physique pour vous, Pierre Niney. Marion, comment vous l'avez abordé en étant un peu la girl next door, la plus normale, la plus naturelle possible, puisque encore une fois, on est à vos côtés au moment de la bascule.
Ouais, mais... D'ailleurs, j'ai aussi travaillé avec une coach.
C'est vrai?
Avec laquelle je travaille beaucoup pour tout.
Mais physique ou mentale? Ou...
Enfin, pour,
l'acting.
Pour le jeu, quoi.
D'accord, ok.
Oui, parce que j'aime bien essayer d'imaginer d'où elle vient, pourquoi elle... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans cette histoire-là?
Bien sûr. Et comme un entraînement, plus que comme quelqu'un qui manipule votre manière de faire.
Ah oui, encore une fois, c'est une discussion, quoi. C'est
non,
c'est
mais
des
c'est
réflexions
la nuance de coach
le...
qui me fait toujours un peu peur. C'est le côté je m'entraîne avec quelqu'un, c'est une chose. L'autre qui est je vais faire ce qu'il me dit sans réfléchir et sans filtrer les ordres ou les conseils qu'il va me donner, c'en est encore une autre.
C'est peut-être la différence entre
exactement.
Un coach
et un gourou.
Mais non, là, c'est vraiment des réflexions, c'est un ping-pong, quoi. Et oui, pour moi, c'était un peu la voix de les yeux de la raison.
Oui, mais elle est habillée, entre guillemets, normalement, elle n'est pas bling-bling, elle n'est pas, pas trop blindée non plus, elle ne fait pas ni racaille, ni...
Racaille.
Oui, racaille.
Tout ça vient.
Non, je pensais, tu as raison, de rectifier.
C'est pas ostentatoire.
Je pensais au côté clip, tu sais, très bling-bling, avec elle aurait les moyens, avec tout l'argent qu'il gagne...
Lui non plus.
D'être, si, lui, il a des colliers, il a des bagues, il a... si, il y a un look qui a été travaillé.
Un peu plus guide spirituel que lui, il travaille. Il ramène des colliers de Bali, il ramène des bagues particulières, orthodoxes et tout.
C'est pas 50 Cent, quoi.
Des pierres. Ouais, il a 2-3 blousons.
Il a 2-3 blousons qui coûtent cher. On flirtait, le maillot de bain, il est Gucci. Il y a quand même quelqu'un qui veut vous montrer.
Il a une sublime maison.
De toute façon, c'est pas un suppôt du capitalisme. Et évidemment, on voulait pas que ce soit un mec, encore une fois, qui veut que faire de l'argent. Mais il boude pas le fait de montrer qu'il a réussi, et de manière beaucoup plus ostentatoire pour le coup quand même que sa famille ou que son frère.
Chaque fois que Yann Gozlan fait un film, et que ce soit avec vous ou sans vous, je pense à Cécile de France aussi avec Dalloway, il y a toujours une volonté de faire passer un message, de faire réfléchir aussi. Là, l'intention était de dire méfiez-vous des gourous. Ça, on a compris, c'est la première lecture, mais ça va plus loin justement sur méfiez-vous des populistes, méfiez-vous de ceux qui vous disent comment vivre votre vie.
Je pense, méfiez-vous du règne de l'émotion. C'est-à-dire de repasser par soi en se disant, ok, avec quelques outils analytiques, pourquoi cette personne me dit ça?
Okay.
Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi ce message m'arrive sur les réseaux sociaux et me met en colère?
Ça, c'est les algorithmes.
Oui, mais en fait, il y a des gens quand même à la base de ça. Et va y avoir de plus en plus des volontés un peu en sous-marin, quoi, de nous atteindre avec des émotions, avec de la colère, avec de la sidération, qui sont aujourd'hui les émotions, les pulsions les plus rétribuées sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup plus de likes, beaucoup plus de vues, beaucoup plus de rétention d'attention sur les réseaux sociaux avec des contenus qui provoquent de la haine et qui vont chercher des trucs vénères en nous, quoi, qu'on contrôle plus.
Gourou sort ce mercredi au cinéma. Marion Barbeau et Pierre Ninet sont nos invités jusqu'à midi et demi. Voici Camille Lava.
Vous avez vu cette semaine, c'est la Fashion Week. Enfin, moi, je dis ça, mais de base, je n'étais pas au courant. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vu des gens avec des vestes à l'envers et des chaussures en fer forgé. J'ai cru Nagui faisait un vide dressing. Mais en fait, non, c'est bien la Fashion Week. Et monsieur Ninet, vous connaissez bien ça, le domaine de la mode. D'ailleurs, j'étais trop contente quand j'ai vu que vous étiez Égéry Lacoste. Ah, il y a mes deux trucs préférés, Pierre Ninet et les sacoches. Bon, non, en vrai, j'aime trop la mode. Vraiment, je vous jure, j'aime trop la mode. Moi, si je devais décrire mon style, je dirais casual chic. Tu connais casual chic, c'est genre chic classe, mais tu peux t'adapter aux circonstances, tu vois. Genre là, par exemple, je suis chic, mais monsieur Ninet, il me casualise quand il veut, tu vois. Bon. Et si vous voulez avoir le même style que moi, j'ai des petits tips. D'abord, jamais mélanger rayures et poids, ou sinon tu ressembles à un morpion. Ensuite, pas plus de 2 motifs animaliers par outfit.
D'accord.
Ah ouais, celui-là, il est important, hein, parce que bon, l'autre fois, Jennifer, elle est arrivée à l'anniversaire en Seb, elle avait le total look. Oh, tu le crois, toute la soirée, ils l'ont appelé Jumanji. Et enfin, alors ça c'est capital, toujours acheter des vêtements à sa taille. Hein. Pas comme Sarah, la voisine à la cousine à mon oncle, peu cher, que son jean il est tellement moulant, tu peux savoir si elle s'est épilée. Donc bon, oui, j'aime trop la mode. Enfin, je crois que j'aime trop la mode. Non, je dis ça parce que là, je me suis un peu baladée dans les quartiers de la Fashion Week.
Ouais.
Et franchement, c'est n'importe quoi. Oh, tu as l'impression tout le monde, il a perdu un pari. Ah, tu as que des farfelus. Tu croises des gens, chapeau de cow-boy, masque de ski, pull en caoutchouc, short en plexiglas. Ah, sur ma vie, on dirait le début des jeux vidéo, là, quand tu dois habiller ton personnage et que tu connais pas tous les boutons. Oh, rien que là, en venant, j'ai croisé une fille. Elle avait un imper transparent et une écharpe en plastique. Oh, un tupperware. Oh, que tu la mets au micro-ondes et tu appelles ta tante pour dire merci. Et l'autre, juste après, mon Dieu, en combinaison à capuche en cuir noir, avait la fermeture éclair qui remonte jusqu'en haut. Oh, une trousse sur ma vie. Et j'en ai parlé avec ma copine Sandy. Elle m'a fait, ouais, nanana, je comprends pas parce que ces filles, c'est sûrement. Enfin, c'est toi, en fait, je comprends pas que ces filles, en fait, c'est sûrement des mannequins, tu vois. J'ai dit, d'accord, mais comment tu arrives à distinguer les mannequins au milieu des parisiennes? Elle m'a fait, eh ben, c'est facile. Les mannequins, c'est les grandes maigrichonnes ou tout pas l'autre qui tirent la gueule. Je fais, la vérité, ça m'aide pas. Bon. Et en plus, elles prennent des poses, maman, le regard dans le vide, la tête inclinée, la bouche ouverte. On dirait, elles cherchent du réseau. Donc, bon, moi, je vous le dis, c'est pas à Paris qu'il faut faire la Fashion Week-end, c'est à Marseille.
Ah, bon,
ah ben clairement, c'est à Marseille. Là-bas, tu as le soleil, la plage, les belles filles. Bon, après, c'est vrai, on n'est pas la ville la plus stylée de l'Hexagone, tu vois. Ah non, à Marseille, oh, tu mets un maillot de l'OM, un Bermuda, des tongs, ta mère, elle te dit, ah, donc tu te maries et tu me dis rien. Bref, en tout cas, monsieur Ninet, madame Barbeau, si vous avez besoin de conseils pour votre image dans votre métier de l'actorat, n'hésitez pas, on peut bosser ensemble sur des looks un peu casual chic.
Allez, merci Camille. La musique est présente évidemment dans ce film Gourou. L'entrée de Michael Jordan. Maintenant, ça fait flipper quand j'entends cette musique d'Alan Parsons Project. On n'a quand même pas cité l'auteur de ce producteur qui était l'ingé son des Pink Floyd sur Dark Side of the Moon. Il y a également. Là, on est à Vegas, de mémoire.
Ouais,
c'est ça.
Justice.
Justice.
Avec le Le chauffeur, le conseiller, le secrétaire qui est comme un fou, c'est-à-dire il est, c'est Vegas baby, alors que le couple est beaucoup plus tendu, beaucoup plus sur la réserve pendant que lui est en train de s'enflammer. Et puis autre titre qui donne la chair de poule. On ne dira pas à quel moment se passe.
Bah, on peut dire que c'est dans un séminaire où il va chercher les gens très très fort dans le... pour les sortir d'eux-mêmes. Donc là, on est vraiment dans l'idée de transe, d'état second qu'il va chercher chez les gens. Ouais.
Et il y a cette opposition entre la douceur de la musique et les hurlements qu'il pousse ou qu'il fait pousser, comme le cri primal. C'est-à-dire, ouais. Libérez-vous, criez, hurlez, laissez sortir la rage que vous avez en vous. Et cette foule entière qui se met à crier, ça fait peur. Le film est intelligent, extrêmement bien réalisé. Je repense à ce plan séquence. Redonnez-moi un peu, je suis désolé, celui qui joue Daniel de la comédie française.
Jérôme Pouli.
Voilà, parce qu'il y a ce plan-là qui n'est pas véritablement un plan séquence, mais qui donne en tout cas l'idée d'un plan séquence qui est, et qui donne le tournis qui est super bien réalisé. Et on est dans cette espèce de spirale avec la caméra qui tourne comme si justement lui-même avait la tête qui tournait, les yeux dans les yeux, en train de lui dire « voilà comment tu vas changer ta vie, voilà ce que tu vas faire ». Il va le faire, et on ne dit pas ce qu'il va faire, mais il y a aussi ce regard que vous, vous faites en le prenant, en faisant un hug, et vous êtes un peu gêné parce que vous venez de faire, vous venez de dire, vous restez encore les pieds sur terre, et c'est là où on voit que vous êtes un manipulateur aussi.
Mais je pense qu'il a des éclairs de lucidité aussi parfois, c'est ce qui nous intéressait. Et en même temps, on veut que ce soit très ouvert. Même la fin du film, on a voulu que les gens puissent un peu interpréter comme ils veulent les regards. Justement, est-ce que.
Ouais, ça finit à la Cohen. À vous d'écrire
voilà.
La suite.
Ouais, les gens ne sont pas forcément d'accord sur c'est la fin, ça. Mais généralement, ils aiment bien, donc ce qui est le principal.
Ouais.
Mais on peut interpréter de différentes façons. Et encore une fois, on voulait que ce soit un personnage très ambigu. C'est-à-dire que lui-même, est-ce qu'il sait s'il est exactement fier de ce qu'il est en train de faire ou qu'il se dit, bon, bah, la fin justifie les moyens, là, il faut que je sauve ma peau, mon business. Et... Voilà, et
sa boîte s'appelle Expand, il n'est pas plus clair.
Ouais, comme, Expand,
comme message. Une boîte qui a vraiment existé en plus dans les médias.
Ouais. C'est vrai. Ouais, bah, c'est un titre plutôt pas mal. Hein. C'est, Expand, bon, c'est un peu, oui, c'est oui. Un peu conquérant, quoi.
Ouais,
mais
c'est un peu...
mais après, c'est la.
C'est un peu Donald Trump et le Groenland, quoi. Enfin,
c'est ça.
C'est vrai, il y a déjà un truc néo-trumpiste. Ouais, ouais.
Mais justement, toutes ces valeurs sont portées avec attention à ce qui peut se passer à notre planète, à notre démocratie, à notre liberté d'expression. C'est donc Gourou. La musique, on va en parler avec vous, mais assez brièvement. En 99-2001, Marion Barbeau, vous écoutiez Muse. Ça aurait pu être dans la BO de Gourou, hein, aussi. Voilà. Carrément. Elle est au Conservatoire National de la Danse.
C'est ça, vous faites votre entrée dans cette grande maison. En vous disant déjà que vous seriez danseuse professionnelle, ça faisait aucun doute.
Ouais, alors le conservatoire, j'y ai passé qu'un an, et puis ensuite, par contre, l'opéra. Mais ça faisait déjà aucun doute depuis mes 6 ans.
Et quel genre de danse ?
Classique, déjà.
Toujours
classique.
C'est vrai ?
À
l'époque,
ce moment-là, ouais.
À l'époque,
ouais.
Il n'y avait pas d'autres danses envisageables.
Pas du tout.
C'est vrai.
Ah ouais. Mono.
Et comment s'est passé à autre chose ? L'intérêt s'est déplacé ?
Des rencontres. Ouais. Des rencontres avec d'autres chorégraphes. Le fait que ça n'ait pas marché pour moi si rapidement pour gravir les échelons de la hiérarchie du ballet de l'opéra. Mais fort heureusement, et donc ça m'a permis de m'ouvrir enfin.
Vous aviez 11 ans, c'est ça quand vous avez commencé la danse ?
Non, j'avais 5 ans, et puis l'école
de danse
de l'opéra.
Ouais. Ouais. À 11 ans, lui commence le théâtre, Pierre Minet. Évidemment, les Red Hot.
Imbattable. Les Red Hot.
Tout compris.
Ouais.
11 ans, c'est ça le...
C'est ça, 11 ans.
Première scène.
Paraît-il qu'on vous appelait la passoire au foot.
Oui, tout à fait. Les gardiens de but, je vais pas vous cacher que c'était ça le poste. Et c'était ça l'image qu'ils avaient choisi qui collait le mieux. C'était des belles humiliations les mercredis après-midi. Et puis à un moment, j'ai dit, je ne suis pas gardien de but, et j'ai arrêté.
Non, l'humiliation, c'est quand on choisit dans la cour de récré l'équipe et qu'on est le dernier à choisir.
J'étais tout le temps dernier. Vraiment.
C'est important de savoir que le monde ne t'appartient pas complètement.
Complètement. Expand, mais ça s'arrête. Au cache but,
mais une énergie est canalisée et la scène arrive assez vite. Enfin, le théâtre, l'atelier théâtre à l'école, j'imagine.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais, qui est mon sauveur. C'est un prof d'anglais qui fait un petit atelier théâtre en troisième dans son collège et qui me force un peu la main pour le faire. Et on se met à jouer des textes de Valère Novarina,
oui.
Grand auteur de théâtre, mais imbitable pour des enfants. Et donc, je ne comprenais pas un mot de ce que je jouais. Mais le jour où les parents sont venus, ils ont commencé à rigoler, à être ému, et j'ai, là je me suis dit, ah, c'est un peu un super pouvoir. Et là, expand. À partir de.
Ah, mais sans blaguer.
Depuis.
Sans blaguer, ouais, c'est ça. 2021, Marion Barbeau, vous écoutiez. Elle correspond à quoi cette confiture de la lune, Moon Jam.
Ouais. Bah, c'est une musique qu'on peut entendre dans Encore, mais aussi dans...
De Clapiche.
De Clapiche, ouais. Elle a été créée par Ofa Schechter et c'est aussi dans une de ses pièces qui s'appelle Grande Finale.
Et ouais, ce film, on en avait parlé ici.
On en avait parlé ici. C'est un carton, plus d'1 400 000 entrées, je crois. Pour un premier rôle du film. Première grosse expérience au cinéma.
Ouais.
C'est vraiment beaucoup de responsabilité pour un seul être pour commencer.
Ouais, mais fait dans une inconscience totale.
C'est ce qu'il faut peut-être pour y aller. Ouais.
C'est comme ça que j'ai pu le faire, je crois.
Dans la même période, Pierre Niney, vous écoutiez. Le titre qui met de bonne humeur, Harry Styles. As It Was, et Pierre Niney dans OSS.
OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, réalisé par Nicolas Bedos, où là, vous jouez de l'acolyte du jardin, en fait, l'historique. Vous débarquez en tant que... je ne sais plus quel était votre prénom.
OSS 1001.
Voilà, OSS 1001. Voilà,
parce qu'il n'a pas vu le temps passer. Et il hallucine du matricule, il dit on en est déjà au 1001.
C'est la nouvelle génération.
C'est ça, exactement.
Tellement bonne
vanne. Et pendant tout le film, il n'en revient pas. Il dit mais 1001.
Et puis, c'est quand même un truc un peu culte. OSS 117, j'imagine que vous connaissez absolument toutes les répliques de tous les films qui précèdent.
Bien sûr.
Donc débarquer là-dedans, c'est aussi...
C'était un peu flippant. Ouais, en vrai, c'était un peu flippant. Ouais. En plus, il y avait un changement de réalisateur. Donc c'est un peu flippant parce qu'il y avait évidemment ce duo Azanavicius du jardin qui avait fondé le truc, donc c'était un peu flippant et en même temps de grandes rigolades avec Jean que je rencontrais en fait finalement vraiment pour la première fois. Il avait été mon parrain quand j'étais prénommé au César une fois et il avait été trop sympa et tout, donc j'avais hâte de le retrouver, mais c'était
vous l'aviez jamais pris dans le casting aussi, il a jamais fait de feat.
Non c'est marrant, on lui a même pas proposé je crois dans le casting.
C'est énorme.
Ou alors on lui a proposé, il nous a bâché parce qu'à l'époque on a pris un max de refus. Normal, on démarrait, on était casting, parfois on me dit c'est culte, mais je dis, mais c'est très niche, hein. Il y a peu de gens qui connaissent.
Et quelle est la personnalité qui a fait que d'autres ont accepté ensuite? Parce que j'imagine, quand on vous propose de participer à ça, on dit oui, on l'a déjà fait avec, je sais pas, Marion Cotillard, on l'a...
Oui, une fois qu'on a eu Cotillard, ça avait ouvert les vannes, surtout que elle n'était pas forcément habituée des trucs décalés.
Autodérision.
Ouais, et elle avait été géniale, elle était venue faire un rap versus Orelsan et tout, qui lui en avait mis plein la tête, et j'avais dû appeler Marion, non, à un dîner même, je me rappelle, je me retrouve à un dîner, et j'avais le texto dans la poche d'Orelsan qui me disait, est-ce que je peux faire ces lignes-là? Il me les envoie et c'est genre il n'y a rien de pire que ta carrière à part ta mort dans Batman, un truc comme ça. Et moi j'étais là, putain, faut que je vende ça à Marion maintenant, et je marchais sur des œufs, je la connaissais pas du tout, moi j'avais fait un film et demi, tu vois. Et j'étais là, alors tu vois Orelsan, tu vas rire, c'est des phrases catastrophiques. Et elle
m'a dit, n'est-ce pas que tu vas rire?
Tu vas rire. Et finalement je lui pitch et je lui dis, voilà, il voudrait en fait juste, tu vois, non mais c'est vraiment en autodérision, après faut que ça te plaise bien sûr, et sinon je le vire, c'est vraiment ça quoi. Et elle me dit ah mais pas du tout, au contraire c'est une thérapie, s'il vous plaît foutez-vous ma gueule là-dessus, je vous en conjure.
Génial. À propos de thérapie, on a tous besoin, ou tout le monde a besoin d'un coach, c'est le livre de Thibaut Shepman, vous comprenez pourquoi évidemment vous avez demandé de venir. Bienvenue Thibaut, merci d'être là.
Bonjour.
Vous écrivez chez Stock, va falloir parler un tout petit peu plus fort par contre si vous voulez.
Allez, premier coach déjà.
Allez, on y va. La grande enquête sur les dangers du coaching. Alors, vous commencez par tout le monde en a besoin, mais c'est un danger.
En fait, moi, j'ai travaillé pendant 3 ans. Je suis journaliste d'investigation, donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur les dangers du coaching. J'ai réuni énormément de témoignages, beaucoup de documents aussi internes à des coachs qui montrent que certains mettent en place des vrais mécanismes de manipulation. C'est calculé.
Vous avez vous-même été adepte d'un coach ou de plusieurs coachs de vie?
Tout à fait. En fait,
et vous êtes fait avoir un tout petit peu ou pas du tout?
Quand j'ai voulu écrire ce livre, je me suis dit, il faut que j'y aille à fond. Il faut que je voie voit ce que c'est d'être coaché. Donc j'ai cherché un ou une coach. Et j'ai trouvé cette coach, et c'était génial. Elle promet vous publier votre best-seller. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille.
Ah, ça c'est la coach par correspondance, c'est ça?
C'est ça, exactement. Elle, elle est à Bali et elle promet des... Donc mon livre, c'est une enquête sur le coaching en étant coaché. Et malheureusement...
Pour vendre des millions d'exemplaires.
Tout à fait, tout à fait. Et cette coach, en fait, elle s'est avérée tout à fait manipulatrice. On paye d'abord quelques centaines d'euros. Moi, c'était 400 pour avoir accès à un programme. C'est une sorte de mise en bouche, mais on a encore faim et j'en étais toujours pas au best-seller. Et donc, c'est là où arrive, malheureusement, où arrive la deuxième étape. Et je suis sûr que Pierre et Marion, vous serez peut-être même surpris, vous qui avez travaillé sur le coaching, de la somme qu'on m'a demandé. La deuxième étape, c'était avoir le droit de lui parler tous les jours sur WhatsApp pendant 3 mois et faire 6 visios. Est-ce que vous devinez le prix qu'elle m'a demandé?
Ah, maintenant, on imagine un truc énorme.
Il y en a pour 2000 balles, non?
Je sais pas, je sais que des séminaires, ça peut être jusqu'à 4000 euros en France pour 3 jours.
Donc. Ça, c'est énorme, vous pensez?
Allez, wow. 20 000.
Elle m'a demandé 22 000 euros.
Mais non.
Wow. Et ma maison d'édition n'a pas voulu payer. Donc,
non,
scandale. Stock. Je balance, je m'en fous.
Vache.
20 000 euros pour juste communiquer par WhatsApp.
Tout à fait. Et je pense que quand les gens vont voir le film, ils vont se dire, on n'a pas encore ça en France, ce genre de cas.
Et pourtant.
On l'a, et mon livre le documente, c'est déjà arrivé en France depuis plusieurs années.
Alors, que dit la loi aujourd'hui sur les coachings, justement?
La loi, elle dit pas grand chose. Demain,
c'est ce qu'on voit dans le film, donc.
On peut être que n'importe qui peut être coach. Il y a beaucoup d'écoles qui peuvent apprendre ce qu'elles veulent. Ce que je révèle dans mon livre, c'est qu'il y a une personne en France qui était coach et qui a essayé de mettre en place un code de déontologie qui aurait été commun à toutes les écoles. L'affaire n'est pas encore jugée, donc je ne peux pas me prononcer, mais elle a été victime d'une tentative d'assassinat et la personne qui est suspectée, c'est son concurrent, un coach qui avait une école de coaching et qui était totalement opposé à l'idée de réguler la profession.
Il est tellement mieux ce film, merde.
Non, mais c'est ouf.
Merde.
Non, comment ça est merde? Au contraire.
Non, bien sûr.
Au contraire, c'est génial. C'est incroyable, enfin c'est tristement
elle,
génial.
Vraiment, elle le dit pas vraiment, non, elle était attendue par deux hommes armés en bas de chez elle qui voulaient vraiment l'éliminer parce qu'elle voulait réguler la profession.
Non, quand je dis c'est génial, c'est
pour elle qu'elle vive ça. C'est de la résilience, c'est 100% résilience.
Et elle va pouvoir rebondir.
Je veux dire que l'idée du film est totalement. C'est-à-dire que même la fiction est dépassée par la réalité.
Oui, sur certains points, carrément.
C'est fou. C'est fou. L'avenir du coaching, donc, est de passer par une loi, comme c'est dit dans le film ou pas du tout?
Je pense que si les gens vont voir des coachs, c'est parce que on est dans une société où on a de moins en moins de solutions collectives et on est obligé en fait d'aller voir des gens qui nous donnent des réponses individuelles. Et je pense que c'est surtout ça le problème à régler. On est dans un pays où, notamment avec la sécurité sociale, on se disait que quand on a des problèmes, quand on vieillit, quand on est malade, c'est des problèmes qu'on doit régler collectivement parce que ça arrive à tout le monde. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que un élu nous dit que les chômeurs sont désassistés, que le service public, et vous le savez bien ici, est un coup. En fait, il y a un coach qui naît et ce coach est peut-être toxique. Et la solution, c'est pas de reprocher aux gens d'aller voir des coachs. Disons que ça, bien sûr qu'il faut le faire.
C'est de donner les clés pour repérer les coachs qui, eux, sont dangereux.
Alors ça, je le fais. Il y a un chapitre de mon livre qui décrit mécanisme par mécanisme les méthodes de manipulation. Mais je pense aussi qu'il faut, quand on... Il y a beaucoup de coachs qui interviennent en entreprise. À mon avis, il faut des syndicats, il faut pouvoir se syndiquer, il faut pouvoir résister par ces formes-là. Autrement, quand on allait voir un coach, moi, il y a une personne qui témoigne dans mon livre. Elle était harcelée par un collègue, des messages la nuit, etc. Le coach lui dit travaille sur toi-même pour réfléchir à ta posture de victime. Et ne va surtout pas au prud'homme pour pas attaquer l'entreprise. Heureusement, la personne, elle est allée au prud'homme et bravo à elle. Depuis, elle a gagné depuis la sortie de mon livre. Donc, bravo. Évidemment qu'il faut trouver des mécanismes de lutte collective, quoi.
Et il y a quand même de bons coachs au milieu de tous ces coachs. Il faut faire le tri. C'est ce que vous conseillez.
Je pense qu'on peut aller voir un coach quand on va bien et qu'on veut être encore plus performant. Par contre, si on a un problème, notamment de santé mentale, et c'est souvent le cas, là, il faut aller voir d'abord quelqu'un qui peut nous soigner. C'est comme si on voulait devenir champion de course à pied et qu'on avait une entorse. On va commencer par soigner l'entorse et ensuite, on va aller voir un coach de course à pied.
C'est bon coaching, ça.
L'enquête, non, mais c'est passionnant. C'est et Yann est allé voir combien de coachs?
Il a fait pas mal de séminaires et ce qui était étonnant, c'est qu'il est parti avec un regard plutôt critique, analytique en tout cas, à minima, et qu'il s'est fait attraper, quoi. Il est revenu de certains coachings, il me disait, putain, il est fort le gars. Mais j'aimerais bien revoir quelques vidéos, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bon, il y a vraiment un sujet passionnant. Mais il est arrivé dans un séminaire, je racontais ça, où la première phrase du gars, déjà, le gars est arrivé en Lamborghini au milieu des gens. Ensuite, il ouvre les portes, il sort, il monte sur scène et il dit, je vais vous sortir de la race des rats. Et ça, c'est la première phrase du séminaire.
Ça, c'est un red flag évident. Alors...
Et les gens sont hystéros comme dans notre film. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans le film, de raconter ces coulisses-là que les gens ont du mal à imaginer encore. Et tout ce que vous dites est vraiment passionnant. Et les gens reviennent. Et il y avait un mec à la droite de Yann qui avait 60 berges. Et tout le séminaire. Non. Bon, ça, respect à lui. Et des baskets grotesques. Okay. Non, et le mec dit. Et c'était objectif millionnaire, vraiment le truc. C'était je vous explique comment devenir millionnaire. Grâce à mon séminaire, en 3 jours, vous êtes millionnaire. Et le mec lui dit, c'est mon 4e séminaire à Yann. Et Yann lui dit, alors votre business? Et il dit, bah, ça évolue doucement. Voilà. Donc on voit qu'il y a une forme d'addiction évidente.
Tout le monde a besoin d'un coach, ou en tout cas de savoir comment faire pour ne pas se faire avoir et éviter les dérives sectaires et autres manipulations. Chez Stock, signé Thibaut Shepman. Merci d'être venu à ce micro, Thibaut. De quoi vas-tu nous parler, Tanguy? Coach Tanguy?
Eh bien, de Mila, de Morandini, d'Hitler et d'Oldelaf.
Waouh. Je sais pas si je reste.
Tout est logique. Voilà.
Mélodie Fontaine dans quelques instants avec Camille Lavabre, Bruno Pecchi, Tanguy Bassureau, Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et nos invités Marion Barbeau et Pierre Ninet.
France Inter, bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
À l'affiche de Gourou, ce film réalisé par Yann Gozlan, que l'on a adoré, qui sera donc mercredi, donc dans toutes les bonnes salles, avec l'un des déclics, puisque le sujet, le point de départ, c'est cette sénatrice qui décide de faire une loi pour protéger finalement les adeptes de ces coachs en disant, mais est-ce que tout le monde et n'importe qui peut être coach, vous êtes toxique, c'est de la manipulation, attention, qu'est-ce qui prouve que ce que vous dites est valable et ne fait pas de mal à vos adeptes. C'est le point de départ. La loi veut s'occuper de ça. Au début, d'ailleurs, il est plutôt très bien, je vais leur expliquer. Très détendu. Ouais.
Sauf que... parce qu'il dit il y a des masculinistes toxiques, il dit il y a des gens qui prônent les êtres de lumière. Oui, il dit justement dans une scène avec Marion, je lui dis, il est sans doute temps de faire un petit peu de ménage, effectivement.
Donc, il y a beaucoup de virages dans le film.
Mais le pire des gourous, c'est celui qui pense qu'il est vertueux, en fait.
Bah, l'enfer est pavé de bonnes intentions, voilà. Le film le montre encore une fois, bien sûr. Oui.
Mais quand il se rend compte que l'un de ses adeptes veut devenir lui-même gourou ou coach, lorsqu'il voit que son assistant, chauffeur, garde du corps, veut lui-même devenir coach, voire gourou, là, il se dit, non mais attendez, c'est n'importe quoi. N'importe qui ne peut pas devenir coach. Ouais. Or, c'est justement ce qu'il prônait au début.
Ah ouais, complètement. Ça va se retourner peu à peu contre lui. Et d'ailleurs, je précise que après Boîte Noire, le film qu'on avait fait précédemment avec Yann Gozlan, on voulait vraiment rester dans une veine quand même immersive, thriller, haletante, et où justement il y avait des retournements de situation, des twists sur des personnages. On voulait être généreux de ce point de vue-là. Quoi.
Tous les personnages évoluent, y compris le vôtre Adèle. Il évolue lui en bien. Au début, on se dit elle est peut-être complice de toute cette manipulation, et elle devient le repère dont on a besoin finalement.
Oui, même si au début on se dit pas que c'est une manipulation peut-être.
Elle est à l'oreillette quand même, ce qui est quand même un très bon signe pour manipuler quelqu'un. Lui dire ce qu'il doit dire.
Oui, carrément. Comme je disais au début, c'est encore un travail d'équipe, donc c'est vraiment juste presque un simple travail.
Et lui qui prône la communication, finalement, il n'a pas beaucoup de communication au sein de sa propre famille, au sein de son couple, au sein même de la boîte. Et il est là en disant, il faut que tout le monde se parle, que tout le monde communique, s'ouvrir à tout le monde, ouvrir les chakras. Finalement, vous ne connaissez pas grand-chose de lui, vous ne connaissez pas son frère, il l'a caché, et on comprend plus tard pourquoi, mais en tout cas, il y a ce décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Oui, comme souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression. On fait jamais ce qu'on dit qu'on doit faire.
L'un des trucs qui m'a marqué aussi, c'est ce côté jeune entrepreneur qui name drop le prénom de tout le monde dans ses phrases. Systématiquement, c'est bonjour Alice, ça va Sam, je t'en prie Tom, et ainsi de suite.
Montre de la considération à chaque individu.
Je fais croire que je sais qui ils sont.
Mais comme les politiciens, un petit peu. Hein.
Exactement.
C'est vrai, Daniel.
Bien sûr. Il y a plein de procédés.
Merci, Tanguy.
Il y a plein de procédés comme ça, oratoires, qu'on a mis dans le film. D'ailleurs, on a notre co-scénariste que Yann est allé chercher, il avait très envie de travailler avec lui, c'est Jean-Baptiste Delafont qui a fait D'argent et de sang et Baron Noir.
Ouais.
Donc très calé déjà sur, on va dire, l'art oratoire, l'art d'embobiner aussi, mais qui aime bien mettre les mains dans le moteur, aller chercher vraiment la thématique, aller au fond de la thématique sociétale aussi, en plus du thriller. Et lui, ce que j'aimais, c'est qu'il me proposait toujours des dialogues effectivement à double tranchant, quoi. Même dans les séminaires, encore une fois, des trucs convaincants. Mmh. Moi, il y a une scène aussi où, justement, quand il est critiqué par ses équipes, il dit « Mais moi, je donne mon temps, je donne ma sueur, je donne mon énergie depuis des années à ces gens qui viennent dans la salle, qui ont pris des crédits pour être là, qui peut-être renoncent à partir en vacances avec leurs gosses pour pouvoir être coachés, pour pouvoir enfin réaliser peut-être un de leurs rêves. » Et vous trouvez que je les bouscule trop ? Mais en fait, moi, je suis le seul à essayer de les faire bouger. Sinon, ils sont dans un cycle infini d'être à leur petite place que la société leur a attribuée, qui est finalement un peu pathétique, et où, en tout cas, ils sont pas heureux avec ça. Et toutes ces scènes-là, j'ai trouvé vertigineuses parce que tu rebascules et tu te redis. Mais il a pas tort, en même temps, il essaie de les faire bouger ailleurs.
Quand vous
quoi.
Dites des phrases comme « il faut se fixer des objectifs et les atteindre pour les atteindre », c'est une phrase que bien tout le monde est prêt à entendre. En
remettre
disant,
de la discipline un peu dans sa vie.
Dépassement de soi, sortir de la condition sociale dans laquelle on a grandi, ouais. dans laquelle on a baigné, ouais. pourquoi ne pas évoluer, pourquoi ne
il
pas...
Il veut faire éclater ouais. les déterminismes en disant « on vous a attribué une place, aujourd'hui je vois bien qu'elle vous va pas, sinon vous seriez pas venu me voir, bah ensemble on va voir comment vous changez de place ».
Les dangers donc de ces gourous, de ces sectes, de ces manipulations et du populisme, tout ça est à voir et à applaudir et aimer dans le film Gourou qui sort ce mercredi au cinéma. Voici coach Tanguy Pastureau.
Je trouve qu'on devrait interdire aux gens de partir en vrille. On devrait obliger tout le monde à avoir un psy et écouter FIP pour être posé. Prenez Mila, cette jeune femme menacée de mort pour blasphème quand elle était jeune. Elle a posté sur son Instagram une photo d'un type portant un t-shirt Adidolf. Bon, tu fais pas ça si t'es pas sur la brèche. Adidolf, mix d'Adidas et d'Adolf, avec les trois bandes remplacées par des saluts nazis. Wow. Alors, elle a croisé le porteur du t-shirt lors de ce qu'elle appelle un apéro viril. Donc, au nom, tu sais que tu vas pas boulotter du quinoa avec des déconstruits. Si nous, ici, on se présente à un apéro viril, il n'y a que Daniel Morin qui entre. Mila explique que c'était un apéro déguisé, il fallait venir grimer en gauchiste. Sarwell, Kéfier, Colmao et regard épuisé si on veut incarner Jacques Attali. Et donc le mec aurait porté ce t-shirt Adidolf pour interpréter le rôle d'un anti-nazi. Ce que moi j'appelle une personne normale, mais qu'eux appellent un gauchiste. Bref, c'est compliqué. Partons du principe simple que si personne ne comprend la blague, c'est que la blague n'est pas si bonne. Et n'oubliez pas cette règle, ne jamais poster de photos de t-shirt à message quand j'ai mis sur Instagram celui de ma tante. Avec écrit 50% délicieuse, 50% attachante, 100% moi. J'ai eu plus de 2000 désabonnements à ma page. Ok, deuxième règle, les t-shirts à jeu de mots sur Hitler ou les nazis, c'est tachy ouais. parce que le nazisme, c'est 18 à 20 millions de décès. Bien sûr, en 84, Still Loving You du groupe Scorpion a généré énormément de naissances. C'est la manière qu'ont trouvé les Allemands de se rattraper. Mais quand même. Et le souci, c'est que plein de gens ont posé avec Mila dans le passé. Les photos ressortent, ils y sont mêlés. Ne jamais se faire prendre en photo avec qui que ce soit. Oldelaf, une fois, a voulu faire un selfie. Il n'a pas réussi à cause de son âge, il a pris 4 photos du plafond.
Ouais, bon.
Et ben, j'étais soulagé parce que demain, il tente une rime sur Adolf. Hein, si on reçoit Steve Estatoff, ce qui est peu probable parce qu'on est deux à se souvenir de lui, moi et Steve Estatoff. C'est un gagnant de la Nouvelle Star il y a 120 ans. Bon, bah, il y aurait toujours quelqu'un pour ressortir la photo faite avec Oldelaf. On ne sait pas ce que les gens vont devenir. Tenez, Jean-Marc Morandini. Il était super il y a 30 ans, non ? Il faisait non. Tout est possible sur TF1, émission réalisée sous LSD. Je me souviens du reportage intitulé « Ils sont noirs et pourtant ils ont eu un enfant blanc et blond ». Et maintenant, regardez comme ils sont embêtés ces news avec lui. Il a été condamné pour corruption de mineurs et la interdiction d'entrer en contact avec des mineurs quand même. C'est-à-dire que quand il y a un concert de K-pop au Zénith, s'il promène son chien dans le parc, il doit faire un détour de 4 km pour éviter les fans de 16 ans à cheveux bleus schtroumpf. Son chien fait 30 bornes par jour. Hein, ce chihuahua pèse aujourd'hui 40 kilos rien qu'avec ses pattes. Il peut entrer dans un apéro viril sans se faire recaler. CNews avait dit, si Morandini est définitivement condamné, ciao bello lastico, il s'en va. Sauf qu'en fait, il reste. C'est-à-dire que ces gens H24 font la leçon à tout le monde, sur les valeurs morales notamment, et ils doivent se fader un condamné pour corruption de mineurs. Je sais même pas comment Morandini tient en fait. Il a peut-être dans son téléphone la sextape de Vincent Bolloré, on le voit faire l'amour à un bignou, puisque nous les Bretons on est souvent ivres. Et le bignou avec sa poche d'air, bon, à 3 grammes, vous avez vite fait de le confondre avec un partenaire sexuel asthmatique. Quoi.
Okay.
Voilà, je sais pas. Toujours est-il que Sonia Mabrouk a pris ses distances avec Morandini, suivie par Pascal Praud qui s'est senti obligé, alors que ce matin même, il faisait le passage d'antenne avec lui en toute détente. Hein, lui, il suit plus le vent qu'un champion de kitesurf. Lui-même a été suivi par d'autres moins courageux encore. Bref, dans 4 ans et demi, le dernier de l'équipe se sera désolidarisé. Et en attendant, Morandini reste. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si j'étais PPDA, j'appellerais peut-être pour voir s'il y a un poste. Il n'y a plus de morale, plus de retenue dans ce qu'on dit. Arnaud Klarsfeld, hier sur CNews, parlait de grande rafle rafle à organiser contre les OQTF. Lui connaît la charge de ce terme rafle. Encore un mot à ne pas mettre sur un t-shirt. Hein, si jamais le t-shirt existe, n'en postez pas la photo sur Instagram. Pendant ce temps, sur Radio Nova, ça partait sur du pro-russe. Des incitations faites à Brigitte Macron de montrer son kiki pour voir si c'est pas un bonhomme. Et des vannes sur les juifs qui contrôlent le cinéma. Vannes qui a été créée, je pense, le même jour que le cinéma. Mais l'avantage dans l'humour, c'est qu'à chaque génération, on tombe sur des jeunes qui n'ont rien entendu avant. Hein, vous faites un sketch sur les meubles Ikea impossibles à monter, il y a des 13-14 qui vous disent « Ah là là, le génie, quoi !» Hein, franchement, vaut mieux plagier Fernand Reynaud que Chris Rock. Nova, CNews, deux projets pour 2027, deux millionnaires égotiques, deux populismes, unpopular opinion. Je sais que vous n'allez pas me suivre là-dessus, mais on s'aime quand même, c'est la force de cette équipe. Et puis hier, parce qu'il n'y a plus de limite, Jean-Luc Romero, adjoint à la mairie de Paris, vous avez vu, est allé avec Anne Hidalgo à Auschwitz. Donc là encore, pas de t-shirt. Et dans l'avion, cet idiot a fait un selfie avec Hidalgo et le reste de la team, mais tous souriants comme s'ils se barraient à la quinzaine de l'habitude à Ibiza. Avec cette légende sur Insta, bien sûr, départ pour la visite des camps de la mort. Ah, je suis désolé, c'est un peu monothématique, mais je crois que personne dans ce pays n'a digéré ce qui s'est passé il y a 80 ans. Je comprends que les boomers n'ont pas les codes, mais quand même, Instagram c'est fait pour montrer son chien ou son corps. Là, tu fais le kéké, mais quand tu pars pour Auschwitz, tu évites le selfie vacances entre potes. Alors, je sais pas si c'est Internet ou les masses médias qui ont fait qu'on est devenu totalement con, ou si c'est parce que tout est diffusé qu'on réalise qu'on est totalement con, mais qu'en fait, on l'a toujours été. Plus que jamais, il devient utile de couper le flux et de se recentrer les bronzés à Auschwitz. Quoi, encore un t-shirt que je ne recommande pas. Porter des chemises.
Merci Tanguy Passion.
Tanguy sur scène, il sera à Lille le 11 février et à Val-de-Cognac le 28 février.
Gourou au cinéma ce mercredi avec Marion Barbeau et Pierre Ninet qui sont nos invités, également Anthony Bajon, Christophe Montenez de la Comédie Française, Jérôme Pouli de la Comédie Française, Jonathan Turnbull, Raphaël Simon, Tracy Gotoas, Holt McCallany, Léonie Simaga, Manon Quenezet, Paul Scarfolio et donc
Et Déborah Graal qui est en ce moment au théâtre dans le procès d'une vie au théâtre du Splendide, je voulais le dire.
Exactement,
parce que j'aime bien l'avoir sur
et qui est assise juste à côté d'Héloïse, la maestro de voilà. N'oubliez pas les paroles.
Voilà,
comme ça, on a fait le tour de Gourou. On en parle jusqu'à 12h30 d'autres événements culturels. Leïla.
Attention, ça va être rapide. On cherche un acteur pressenti pour remplacer Raphaël Quenard, qui devait incarner.
Génial idée.
C'est vous ?
Mais il y a une rumeur. Ouais, il y a une rumeur.
Pierre Ninet en Johnny ?
C'est pas moi, c'est
non.
Pas moi.
Non, c'est un pas acteur moi. Qu'on connaît, ici, qu'on a déjà reçu.
C'est pas moi non plus, donc tu veux la
absolument, tu l'as dit. Benjamin Voisin, bravo. C'est toi, Bruno ?
Ah, c'est Camille, c'est moi.
C'est vous, c'est collectif.
On est la même
c'est
personne.
Beau. Non, c'est beau, vous êtes la même personne, vous êtes le même coach. En effet, Benjamin Voisin serait pressenti. Alors, il n'a pas du tout confirmé. En tout cas, on peut revenir sur l'événement. Raphaël Quenard a non pas fait un communiqué, parce que le communiqué en 2026, c'est Instagram, donc a posté un texte. Voilà, c'est ça, une story, en indiquant que pour plusieurs raisons, il n'allait pas incarner Johnny Hallyday dans le long métrage annoncé, réalisé par Cédric Jimenez. Raison invoquée, la promotion d'un film où il joue, la co-réalisation d'un long métrage. Selon son entourage, ça ne serait pas une question de planning. Oui, mais selon son entourage, ce ne serait pas vraiment une question de planning, sachant que les répétitions auraient déjà commencé parce qu'il y avait des cours de danse, de chant. Enfin, le boulot, je pense, était assez considérable.
Des cours de danse pour Johnny ?
Ah bah de mouvement, je pense, de rapport au corps. En quand je dis danse, c'est au sens large. Okay. Marion, vous attestez qu'il faut à un moment, je pense, reprendre possession de son corps pour incarner quelqu'un comme Johnny.
Bah oui.
Vous dansez, le Johnny.
Des cours. Le tournage qui est prévu, je crois, en mai. Donc ça fait très court pour reprendre ça. Sans vous demander ce qui a pu bien se passer, ça, sans doute vous n'en savez rien.
Jérémy Crédville, il serait bien, Johnny.
Aussi, ouais. Est-ce que vous avez déjà, comme ça, dû renoncer assez tardivement à un projet ? Justement parce que soit vous ne vous sentiez pas prêt, soit il y avait un désaccord avec le réalisateur, soit là pour Raphaël Quenard, c'est son premier rôle en fait. Vraiment, parce qu'il
Y avait Yannick. Oui, c'est vrai qu'ils sont trois quand même.
Ils sont plusieurs. Là, c'est vraiment tout repose absolument sur lui, donc il faut vraiment le sentir pour y aller, quoi.
Ouais. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais
vous avez déjà annulé un.
Non, moi je crois pas en fait. Je crois que à chaque fois que vraiment ça commence à aller, on se met d'accord, on se tape dans la main et puis ça part en répétition et tout. Après, j'ai jamais quitté
le truc, ouais.
Même quand ça ne va pas. Parce que on peut avoir tapé dans la main, Attends, mais je finis juste. On peut avoir tapé dans la main et puis partir pour 6 mois un peu d'enfer et se dire.
Bien sûr.
Ouais.
Je touche du bois, ça m'est pas encore arrivé.
Ouais.
Mais Marion, oui, apparemment.
Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais pas au cinéma, pour un projet de danse, avec un chorégraphe que j'adore pourtant, mais C'était à la fin de la saison et je me voyais vraiment mourir après ce...
Parce que t'étais fatiguée toi ou parce que l'ambiance de travail t'allait pas?
Non, parce que c'est moi mon état de fatigue, je commence à me connaître et je connais aussi mes limites.
Ils l'ont mal pris, ça a foutu le bordel?
Bah, c'est ça le pire, c'est qu'il l'a pas mal pris, donc c'était encore plus dur. Ah ouais. Ce qui est adorable. Et depuis, j'ai retravaillé avec lui.
Voilà. Vous n'avez pas annulé? Commençons par faire l'amour, vous ne l'avez pas annulé?
Non, je ne l'ai pas annulé.
Ça c'est maintenu, ça sera le 3 février au Salin, scène nationale de Martigues, les 11 et 12 février à la Comète, scène nationale de Chalon-sur-Marne, et les 8 et 9 avril à la scène nationale
Chalon
Théâtre...
Chalon-en-Champagne, pardon.
D'Orléans, pardon?
C'est Chalon-en-Champagne.
Chalon-en-Champagne, pardon. Commençons par faire l'amour de et avec Laura Backman, et donc vous pour donner ces représentations. Et
beaucoup de danse, hein, beaucoup de danse avec Boris Charmatz aussi, beaucoup de... De scène. Ouais.
Et ouais. Un film qui sort aussi.
Et un film avec Yamabas, c'est ça, le 22 avril, à voix basse, de Leïla Bouzid avec Yaboutera.
Trouble, le premier film également chorégraphié de Laura Backman. Et Levé solo, c'est ça, c'est ce dont tu parlais, les 17 et 18 mars à l'espace Pasolini de Valenciennes. Il y a une soirée incroyable, mais je ne sais pas exactement en quoi elle va consister, les 11, 12, enfin plusieurs soirées, trois, les 11, 12, 13 avril, c'est le Comte de Monte Cristo avec un orchestre?
J'ai rien suivi de cette affaire.
Voilà,
je préfère vous dire tout de suite. J'étais en promotion, j'ai reçu un peu des trucs sur WhatsApp, mais effectivement, je pense que ça va être joué en live.
Oui, un musical, c'est pas ça?
Non. Alors, il y a une comédie musicale. Je crois que notre compositeur qui a fait la musique de Monte Cristo va reprendre en live la BO du film, il me semble.
Et 10 minutes de film ont été rajoutées. L'équipe du film est annoncée, mais pas vous.
Apparemment. c'est quoi les dates?
11, 12 et 13 avril.
Peut-être j'y serai. C'est bien qu'on fasse le planning ensemble, c'est important.
Raphaël Quenard peut.
Bon, au pire, ça sera Raphaël ou Benjamin Voisin. De toutes les façons, il y aura quelqu'un.
Voici Mélodie Fontaine. Voilà. Un hommage, Mélodie.
Bah oui, c'est l'heure des hommages. Et aujourd'hui, je souhaiterais rendre hommage à mon énorme et turgescent gros orteil. J'ai des nudes de lui, vous voulez?
Non.
D'accord, bon. Ils sont tordus, mes orteils, mais tordus. On dirait des brindilles balayées par la brise. Oui, une brise qui sent le claque au bien fait, mais ça ne me dérange pas, j'adore le frometon. En fait, on dirait que mes doigts de pied sont pas synchro. Ils sont à un concert de Bad Bunny, mais ils dansent sur du sardou. Tu vois, ça fait un mal de chien en plus. Allez, changeons de sujet, rendons hommage aux chiens plutôt. Plutôt, vous vous l'avez ?
Oui.
Les chiens, j'en suis zinzin. J'aimerais trop en adopter un. Mais j'hésite. Mais là, j'hésite vraiment beaucoup trop. Quoi. Je me pose plus de questions sur l'adoption qu'un couple gay ancien tolard sous OQFT au Chaume-Dieu à Hénin-Beaumont. Mais c'est important de réfléchir. En général, déjà, hein, il est bon de rappeler que c'est important de réfléchir en ces temps obscurs, et tout spécialement quand on adopte un animal. Donc, rendons hommage à nos petites choses poilues, à la truffe toute humide. Aux zizi de Dani, oui, bien sûr, mais aux chiens aussi. Il faut dire que j'ai choisi ce sujet totalement au hasard. Hein. Je ne fais pas du tout partie des 322 000 personnes à liker le poste de Pierre où son chien regarde ses fiancés. Pardon. Non, parce que moi, vos photos de muscu et tout ça sur Insta, je m'en bats l'aileron. Je regarde pas. Et je vais pas non plus sur Insta pour regarder Marion qui danse. Juste. Voilà, allez. Donc, moi, ce que je veux, c'est un petit brabançon. Alors, comme chien, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Ces yeux globuleux, petits bourrelets, courts sur pattes, bave aux lèvres. T'ajoutes des doigts gondolés, c'est moi. Oh. Tant pis. Non, mais tant pis si j'alimente le cliché du chien miroir de son maître. C'est comme si Neil ressemblait au comte de Monte Cristo. Quoi, c'est son prénom, Neil? Mais c'était fou, c'est le hasard est quand même complètement dingue. Ok, je suis pas foutu de citer le nom d'un ministre, mais je sais que Neil fête ses 9 ans cette année. Sa petite patte dans le sac, tu grattes, tu... Pardon, excusez-moi.
C'est mon chien.
Ah, voilà. On ressemble à son compagnon un peu. C'est vrai. La preuve, dernièrement, moi j'ai eu un cochon d'Inde nu. Pourquoi nu? Parce que dépourvu de poils. Enfin, il en avait 2 ou 3 quand même. En fait, pour ceux qui voient pas ce que c'est qu'un cochon d'Inde nu, pour vous donner une idée, désolé les enfants, mais il faut imaginer un testicule. Oh. C'est vrai, une bouliche. Enfin, alors, j'ai ramené une photo parce que comme ça, on se rend mieux compte. Voilà. Ça, c'est mon cochon couille, en fait, comme j'aime à l'appeler. Oh, wow. Et ironie de la chose, il avait une énorme paire de balls, comme vous pouvez le constater, avec une mini-balls dessus. Inception, le truc. Un kiwi et ses 2 bébés kiwis. Ses cales ont raclé le sol comme un chalutier. Et ça l'empêchait de se mouvoir, le petit coco. Georges, c'était son nom à mon copain, il lui a fallu 8 sortes de fruits et légumes par jour. C'est une campagne de prévention, machin. Un pull, il fallait que je lui mette un pull, de la crème hydratante, un régime diversifié. C'est simple, j'avais Nagui à la maison. C'est de l'attention, il fallait lui gratter le ventre. Mais quand il était content, il chantait. Nagui, hein, pas Georges. Mince, je suis à deux doigts de rendre hommage à Nagui. Bon, deux doigts de pied, bien sûr. Merci.
Merci, Mélodie Fontaine. Mélodie sur scène à la chapelle Saint-Mémas, c'est près d'Orléans. Ce sera samedi et elle sera à Tonneins le 21 février. C'est entre Toulouse et Bordeaux.
Et puisqu'elle parlait de Cochon d'Inde, c'est une pièce de théâtre pour laquelle nous recevrons Arnaud Ducret et Julien Bosselier. Ça sera mercredi. On recevra dans la semaine aussi Julie Debonat. On lui demandera si elle fait partie de l'équipe de Monte Cristo qui est présente les 11, 12 et 13 avril. Est-ce que oui ou non vous avez terminé Histoire parallèle, Pierre Niney?
Oui, c'est le film d'Asghar Farhadi qu'on a fini il y a un mois avec Virginie Efira, Vincent Cassel et Isabelle Huppert.
Et Catherine Deneuve.
Et Catherine Deneuve qui a aussi une scène dans le film, ouais, un face-à-face entre Huppert et Deneuve. Et j'étais malheureusement pas sur le plateau ce jour-là, mais c'est Avengers, quoi. Et ça...
on connaît la date de sortie ou la période à peu près?
Non, je sais pas, sais pas exactement. Je pense que ça va être autour du mois d'avril, mais j'en sais rien en fait, ça se sent donc j'en sais rien.
Vous serez Fourchette?
Non.
Eh oui. Ah non.
C'est faux?
Bah non, ouais, c'est faux.
Intox.
Ouais.
Ah, je croyais, Fourchette dans Toy Story.
Intox Story, par ailleurs.
Intox Story, très bien. Est-ce que vous savez déjà sur quel projet, sur quel scénar vous êtes en train de travailler avec votre boîte de prod et Marc-Henri Debuchère?
On a plein de trucs. Voilà, il y a des films très différents qui sont en écriture, en pré-production. Donc, on commencera à les tourner d'ici un an. Et cet été, je tournerai d'autres films.
Dont vous voulez pas parler.
Je peux pas encore annoncer, mais voilà.
Est-ce que dans ce que vous écrivez, ce que vous voulez produire, il y a toujours cette notion de faire passer des messages, être utile entre guillemets? Si,
non.
Je sais pas si.
Enfin, oui et non, dans le sens où moi j'ai toujours aimé quand il y a le sweet spot, comme disent les Américains, entre le fond et la forme. Voilà, moi j'ai grandi avec Molière, avec Chaplin et tout, donc il y a toujours cette idée de divertissement au sens noble du terme et en même temps un message de fond.
Ah, oui.
On parlait de néo-fascisme et tout ça. Le Dictateur est un film extrêmement courageux et en même temps c'est un film qui est très très divertissant, poétique, drôle, voilà. Donc je cherche un peu cet endroit-là dans pas mal de projets, mais ce que j'aime bien, moi, c'est m'adapter à l'univers de quelqu'un, et même en production, aller chercher des jeunes réalisatrices, des jeunes réalisateurs qui sont sur YouTube, qui sont dans les écoles, pour aussi trouver des nouveaux récits, quoi.
Désolé, Daniel Morin, avant
de se quitter. Ouais. Je crois que c'était évident pour tout le monde. Désolé pour Marion Barbeau, on l'a bien senti ce matin sous l'emprise de Pierre Niney, et ce même en promo. Alors, je l'ai vue en pleurs la pause. Elle était allée chercher à boire tout en portant son sac, son manteau et ses valises. Elle marchait, comment dire, en courant. Ben voilà, mais c'est bon, c'est terminé maintenant. Vous pouvez vous remettre à courir si vous voulez.
Le très bon film Gourou sort donc ce mercredi au cinéma, porté par nos invités et Marion Barbeau, Pierre Niney, mais également Anthony Bajon, Christophe Montenez, entre autres.
Et toute la Comédie Française.
Merci, une bonne partie. Merci mille fois et bravo.
Merci.
Surtout à Yann Gossan et à vous d'avoir porté ce film. Demain, c'est la famille Balasco, j'ai envie de dire. Marie-Lou Berry et Josiane Balasco seront nos invités tout de suite. Des carnets de campagne. Dorothée Barba, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Coucou,
nous
Dorothée.
Parlons cinéma également, mais dans les Cévennes, avec une association géniale qui réalise des courts-métrages et qui fait participer absolument tout le monde dans le village, tous les habitants.
Parfait.
Le Cinoche Crédulien.
Parfait, ouais. Bonne émission.
Salut,
merci.
À demain.
Ciao.